Alexis, on en a parlé hier, pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous, au cours des prochaines semaines, dans le remplacement qu'on va faire ensemble dans le Club du matin, on sait, en fait, tu t'es donné le mandat, et ça me fait plaisir qu'on en parle, de faire un survol des équipes de la Ligue nationale dans cette entre-saison 2025, et donc tu es parti sur la côte ouest américaine, et tranquillement, on va revenir dans plusieurs jours. Pour l'instant, on est encore sur la côte ouest. Hier, on a parlé du Kraken de Seattle et des Sharks de San Jose, deux équipes qui ont bougé à leur manière, les Sharks avec beaucoup plus de mouvement, le Kraken avec beaucoup moins de mouvements, mais des mouvements peut-être un peu plus placés, nichés sur des postes où on devait vraiment s'améliorer. Aujourd'hui, c'est deux autres équipes dont tu vas parler de l'Ouest, les Ducks d'Anaheim et les Canucks de Vancouver, à commencer par les Ducks, une autre équipe que si les amateurs aiment les espoirs, on est bien servi avec les Ducks. Là.
On est bien servi, c'est une équipe que moi personnellement j'aime beaucoup, les Ducks d'Anaheim, que je vais apprécier suivre cette saison. Et disons que Pat Verbeek a été très actif encore une fois cet été. Pour commencer avec le repêchage, évidemment, on a mis le grappin sur Roger McQueen, un joueur de centre de gros gabarit, gros format, qu'on a repêché avec le 10e choix au total. C'est okay. Un joueur qui ne jouera pas tout de suite avec le grand club.
Et surtout, il y a des enjeux au niveau des blessures. Lui, c'est ce qui a marqué un peu sa dernière saison. On parle
d'un
talent.
C'est pourquoi il a glissé un
exactement.
Peu
sinon, je pense qu'il aurait été repêché plus tôt.
Là. Ouais, parce qu'en termes de talent, on a vu quelques extraits là, au camp de développement des Ducks, et qui est vraiment un joueur qui ressortait du lot, si on veut, au niveau de ses habiletés, de ses mains, son coup de patin, tout ça. Donc, un autre joueur de centre qui vient se greffer à cette ligne de centre qui est déjà, ma foi, assez garnie avec des joueurs comme Leo Carlson, Mason McTavish. Là, on a signé également Mikael Granlund cet été sur les agents libres en lui offrant un gros contrat quand même de 3 ans à 7 millions de dollars par année.
C'est un gars de qui certains amateurs auraient aimé voir à Montréal. Est-ce que tu aurais aimé, toi, le voir à Montréal, ce gars-là?
C'est que c'est un joueur qui peut être utile pour une période de transition. Tu sais, c'est un joueur qui quand même n'est plus dans la fleur de l'âge, si on veut, quand même pas si vieux que ça non plus, peut apporter encore des bons services, mais disons que dans le plan qu'on essaie de bâtir à Montréal, ça aurait pu être un joueur de centre pour combler ce deuxième poste qu'on essaie toujours de combler d'ailleurs actuellement. Et bon, disons
moi, je trouve ça pas si mal le contrat qu'il a eu, 3 ans, 7 millions, je trouvais ça quand même pas si pire, moi.
C'est pas si mal, mais je pense pas que c'était dans les plans nécessairement du Canadien d'accorder un contrat de ce genre à un joueur comme Mikael Granlund. Et j'étais convaincu que justement une équipe un peu comme les Ducks allait être prêt à payer ce genre de prix pour un joueur de ce style-là. Et je pense que justement du côté des Ducks, on essaie de passer au prochain niveau tranquillement. Parce que là, ça fait plusieurs années qu'on manque les séries éliminatoires, qu'on regarnit notre banque d'espoir. Et disons que l'année passée, moi, je me serais peut-être attendu un petit peu mieux que ce qui est arrivé. On a terminé 6e de la division avec une fiche de 35 victoires, 37 défaites et 10 revers en temps supplémentaire, bon, pour 80 points. On était à 16 points d'une place en série. Et là, je sais pas si je vais vous surprendre, mais moi, cette année, je les vois passer au 4e rang de la division.
OK.
Je les vois pas en série, quand même pas, parce que je crois que la division centrale est encore trop forte, mais je les vois faire un bon... Je vois vraiment une belle progression à venir pour cette équipe-là. Mine de rien, Chris Kreider qui se joint à ce groupe-là aussi. Même chose en défensive, on a une jeune... De défenseurs qui continue d'évoluer. Et
on a échangé Trevor Zegras qui était presque devenu un cas peu avec cette équipe-là dans les dernières années. Là.
Ouais, exactement. On va chercher Ryan Poehling qui, va jouer un certain rôle sur les derniers trios. Lui qui s'est quand même établi à cette position-là avec les Flyers. Puis également, si on regarde du côté de la défensive, des gars comme Pavel Mentyukov, Jackson Lacombe, Olin Zellweger. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est...
Non, j'allais dire, oublie pas un Tristan Luneau, en défense.
Tristan Luneau, exactement, c'est vrai. Qui va se joindre également à cette équipe-là, qui a une chance de le percer aussi. Mais non, vraiment, je crois qu'on établit en ce moment un beau mélange de vétérans, de jeunes joueurs et de joueurs un petit peu plus établis. Et là aussi, on a également choisi d'échanger John Gibson, laissant finalement la place complète à Lucas Dostal avec son contrat également qu'il a signé pour le poste de gardien numéro 1. Lui, c'est quand même un gardien encore très jeune qui a offert de belles performances dans les dernières saisons. Et maintenant qu'il a le rôle à lui et qu'il le sait, je crois que ça peut seulement encore s'améliorer dans son cas.
Hugo, les Ducks d'Anaheim, ça monte de 2 rangs dans la section Pacifique cette année ou pas?
Écoute, c'est vraiment difficile à dire.
Moi,
là,
en fait, pour te répondre, il va falloir que j'aille le portrait complet de la section Pacifique. Il manque encore quelques équipes.
Exactement. Mais alors, j'aime le point que tu évoques par rapport à la qualité des espoirs qu'on a. Ouais. Je pense que ça va vraiment avoir un impact sur la rapidité de pouvoir se requalifier pour les séries et être dangereux. Tu sais, Cutter Gauthier, je l'adore, Leo Carlson aussi. Là, c'est sûr, il y a une situation avec Mason McTavish à voir. Mm-hmm. Mais en termes de défensive, Jackson Lacombe, je trouve que c'est un défenseur quand même à être. À être découvert. C'est un gars qui fait très bien les choses. Et justement, Tristan Luneau, lui aussi, là, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir là, dans la LHGMQ, là, c'est un défenseur impressionnant. Donc, j'ai bien hâte de voir comment on va agencer tout ça.
Et l'an dernier, il a eu une très belle saison avec les Ghosts de San Diego, notamment à partir du mois de janvier. Il a été dominant pendant une période là, de un mois et demi, deux mois. Là, il était le meilleur défenseur de la Ligue américaine au niveau des points. Moi, les Ducks d'Anaheim, c'est qu'ils sont dans la période qui est peut-être la plus difficile dans une reconstruction, c'est celle de passer un cap.
Exact.
C'est-à-dire qu'au début, je dirais pas que c'est facile, mais bon, tu coules, t'accumules les choix, exact. Tu repèses plein de bons jeunes espoirs. Là, c'est de passer le cap et de redevenir une équipe qui peut aspirer un peu à être en éliminatoire. Le Canadien, cette année, a réussi à être en éliminatoire. Ouais. À l'inverse, une équipe comme les Sabres de Buffalo arrive jamais à le passer, ce fameux cap-là un peu. Même les Red Wings de Détroit, là, il va falloir qu'on y arrive un peu si on revient du côté S avec des équipes qu'on connaît plus. Alors, Anaheim, c'est ça. Une équipe avec plein de bons jeunes, mais là, il faut juste que ça connecte un peu et qu'on dise on n'est plus en reconstruction, on a avancé.
Voilà. C'est de savoir est-ce que le moment était le bon, en fait, d'aller chercher des vétérans comme Chris Kreider et Mikael Granlund. Rapidement, pour faire la parenthèse avec les Red Wings, comme tu l'as mentionné, ça, c'est un exemple justement d'une équipe qui a décidé d'amorcer sa prochaine étape un peu trop tôt. On a pensé qu'on était prêt à faire le saut et on a été chercher plusieurs vétérans. On a signé des gars comme Patrick Kane, des gars comme Ben Sherratt à des gros contrats et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que du côté des Ducks, ça va être le même scénario ou est-ce que justement le temps était bien choisi? On pense que les jeunes sont prêts à franchir cette étape-là cette saison. C'est ce que j'ai hâte de voir et c'est ce que je crois va peut-être arriver. Et justement, si on y va rapidement avec mes deux joueurs à surveiller pour cette saison, Jackson Lacombe, on en parlait, mais j'ai également aussi Cutter Gauthier qui, lui, justement, a vraiment pris en confiance aussi au fur et à mesure que la saison progressait. C'est 5 buts à ses 42 premiers matchs, mais 15 à ses 40 derniers. Lui qui a vraiment un bon tir et qui, justement, a commencé à prendre confiance un peu plus à son lancer, qui n'avait pas peur de l'utiliser. Comment tu dis, Hugo?
Un meilleur environnement pour Cutter Gauthier. Ben, donc, ça a paru aussi.
Ouais, c'est ça. T'sais, lui, on le sait, là, avec la controverse qui est arrivée, il avait demandé une transaction Flyers et finalement, s'est retrouvé avec les Ducks. Et aussi, qui devrait voir son temps de jeu augmenter beaucoup. Là. Si on regarde l'année passée, c'est 14 minutes en moyenne de temps de glace. J'ai vraiment l'impression que cette année, on va lui confier de plus grandes responsabilités sur un top 6, voire même un premier trio, également une première vague d'avantages numériques. Et pour ce qui est de Jackson Lacombe, eh bien, lui, je le trouve intéressant puisque l'an passé, on attendait surtout Pavel Mintyukov en défensive chez les Ducks. On croyait, après sa saison recrue, que ça allait être le futur défenseur numéro 1 de l'équipe. Et finalement, bien, c'est Jackson Lacombe qui est ressorti du lot et qui a pris un peu ce poste-là par défaut. Lui qui a vraiment une production offensive impressionnante l'an passé avec 14 buts pour 43 points et qui était quand même au 19e rang de la Ligue nationale de hockey chez les défenseurs pour les points à égalité numérique devant des gars comme Jacob Chychrun, Brandon Montour, Mikhail Sergachev, Luke Hughes. Donc, ça va être de voir s'il pourra poursuivre sur sa lancée cette saison, mais définitivement, là, une saison que j'ai très hâte de voir du côté des Ducks d'Anaheim.
Et corrigez-moi, je sais pas si j'ai manqué, mais Mason McTavish n'a pas encore signé son contrat. On attend toujours ce dossier-là.
Il y a ça qui va être important aussi de suivre. Là.
Ça va être peut-être le plus gros dossier encore pour le moment pour les Ducks. L'autre équipe dont tu voulais nous parler aujourd'hui, Alexis, c'est les Canucks de Vancouver, première équipe canadienne dans ton long parcours, là, dans ta traversée de l'ouest vers l'est. Là.
Exact, les Canucks de Vancouver. Bon, ça, c'est une équipe qui me déçoit un peu et qui, je crois, déçoit beaucoup d'amateurs de hockey. Depuis leur saison exceptionnelle d'il y a 2 ans où on avait atteint les 50 victoires, ça a été très décevant la saison passée pour les Canucks, on se mentira pas.
Ça a très mal commencé avec toute la saga de JT Miller et Elias Pettersson. J'ai l'impression que tout a commencé croche.
Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de distractions aussi au cœur de cette équipe-là, puis certainement, ça l'a pas aidé. Finalement, on a décidé d'échanger JT Miller et bon, il y avait même un certain moment où on croyait qu'Elias Pettersson pourrait aussi être échangé, lui qui avait signé un contrat de 8 ans, 11,6 millions de dollars par saison. Et bon, ben, du côté des Canucks, si on regarde un peu ce qui s'est passé durant l'entre-saison, pas trop de mouvements tant que ça. On sait Brock Besser tombait agent libre et c'est un de ceux qu'on surveillait le plus justement lorsque le marché des joueurs autonomes s'est ouvert. Finalement, a décidé de rester avec les Canucks pour les 7 prochaines saisons avec un contrat de 7,25 millions par année. Et on a également aussi mis sous contrat le défenseur Tom Willander qui, lui, est un défenseur recrue espoir qui m'intrigue.
Un Suédois.
Ouais, on le sait, lui, qui avait joué aussi avec Lane Hudson à Boston.
University.
Exactement, dans la NCAA. Donc, un contrat d'entrée pour lui. On a également aussi prolongé des joueurs comme Thatcher Demko et Connor Garland. Pour ce qui est des joueurs autonomes, eh bien, on a seulement mis sous contrat, en fait, Pierre-Olivier Joseph dans les noms un peu plus notables. Sinon, on le sait, on a été chercher également Evander Kane via voie de transaction chez les Oilers. On a simplement donné un choix de quatrième ronde en retour.
Il n'a pas coûté trop cher. C'était c'était plus de prendre son salaire un peu.
Ouais, ben c'est ça. Puis on savait aussi que chez les Oilers, on avait les mains liées puisqu'on n'avait tout simplement pas d'argent sur la masse salariale. Donc, on n'avait pas trop le choix de s'en départir à bas prix. Et autre joueur aussi qu'on a signé et qu'on vient tout juste de repêcher, c'est Braden Coutts, qu'on a repêché 15e au total dans le dernier repêchage, qu'on a tout de suite mis sous contrat. Et pour ce qui est des joueurs qui ont quitté le bateau chez les Canucks, c'est bien le plus notable, c'est Pius Suter, qui s'est entendu avec les Blues de Saint-Louis sur le marché des joueurs autonomes. Arthur Silov également, qui a quitté chez les Penguins de Pittsburgh. Même chose pour Dakota Joshua, lui qui prend la route de Toronto. Donc, pas de mouvement trop notable en tant que tel.
T'as
cet
oublié
été.
une autre ancienne légende du Canadien aussi?
Ouais, Noah Yolson.
Noah Yolson.
J'ai mentionné notable avant, donc c'est pour ça que j'ai décidé de peut-être le sauter. Mais oui, Noah Yolson qui a quitté le bateau, qui est rendu du côté des Flyers.
Un mot rapide sur Braden Coutts, parce que c'est un gars qu'on a vu au Mondial des moins de 18 ans. J'avais le plaisir de le faire avec RDS. Ça a été le capitaine de l'équipe canadienne. Il a eu 12 points en 7 matchs. Alors écoute, j'ai pas la prétention de le connaître autant que justement Marty ou peut-être ouais. qu'Anthony Desaulniers a plus la connaissance. J'ai pas vu tous ses matchs avec Seattle, loin de là, mais ce qu'on a vu au Mondial des moins de 18 ans, je l'avais beaucoup aimé. On le voyait beaucoup, très combatif aussi avec la rondelle. Il avait le calibre d'un capitaine un peu, ce gars-là. Il a 18 ans, ça sera pas pour tout de suite, mais je serais pas surpris que s'il se rend dans la Ligue nationale, il semblait dégager l'aura d'un capitaine un peu. C'est pas le plus gros nécessairement, mais tu le voyais toujours à peu près à chaque présence sur la patinoire. Là.
Exactement. Donc disons que pour un 15e choix au total, c'est un choix qui valait la peine d'être pris, mine de, malgré son gabarit justement, qui est peut-être une des raisons aussi pourquoi il a descendu un petit peu.
Quand on fera le club du matin en 2034, là, si jamais il n'a pas eu de carrière, tu pourras dire que j'ai dit que je l'aimais à ce moment-là.
On va garder, on va garder la séquence audio très près. Pour ce qui est des Canucks, bon, ben, l'année passée, même si ça a été décevant, on était quand même seulement à 6 points d'une place en série. Donc, on n'était pas trop loin de l'objectif. Mine de rien, je crois tout de même que c'est une équipe qui va régresser encore la saison prochaine. Je les vois passer du 5e rang au 6e rang de la division, justement.
Faut que tu fasses de la place pour les Ducks. Là.
Exactement, c'est ça. On doit reculer pour avancer.
Je dois faire de la place pour les Ducks, mais c'est tout simplement que je vois pas comment les Canucks vont arriver à progresser cette saison. Tu regardes, on vient de faire là, le récapitulatif des mouvements qu'il y a eu cet été. Aucun changement majeur et on regarde la profondeur sur les 3e et 4e trios, c'est très faible. Il y a pratiquement pas de profondeur, en fait. Le Nils Höglander avec Ato Rati et Kiefer Sherwood sur un 3e trio.
Qu'est-ce que tu as comme ça comme 3e trio?
Non, mais je veux dire, comparativement à celui des Ducks, par exemple, qui comprenait des gars comme Ryan Strome, Frank Vatrano, c'est beaucoup plus faible.
C'est dommage pour Vancouver parce que c'est une équipe qui cherche depuis plusieurs années, là, qui, on pensait, avait trouvé l'espèce de petite coche un peu, puis finalement redescend encore plus bas presque que là où ils étaient avant.
Ben c'est dommage parce que J.T. Miller faisait très bien avec les Canucks, mais si c'était pas des distractions et de tout ce que la controverse qu'il y a eu, c'est un joueur qui produisait très bien et qui, encore une fois, fait bien depuis son arrivée avec les Rangers. Donc, c'est dommage qu'on ait dû s'en départir. Et ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on a choisi maintenant de officiellement laisser les rênes de cette offensive-là à Elias Pettersson, et lui aussi se cherche un peu comme son équipe depuis 2 ans. Sa production qui est en baisse considérable.
Mais là, en fait, aussi, ce que je perçois des Canucks, c'est que là, on a décidé de vraiment de rallonger les pions stables là, qui vont rester là pendant, pendant longtemps. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est un peu de plus vers une reconstruction? T'sais, là, maintenant qu'on a nos piliers, est-ce qu'on veut bâtir autour avec une jeunesse intéressante? Ça va être à voir, parce qu'en ce moment, comme tu le dis, Alex, je pense pas qu'avec la profondeur de l'alignement présentement, on a quelque chose où il va avoir des résultats super convaincants. Mais encore une fois, tu sais, on a Thatcher Demko, un Thatcher Demko en santé qui fait des miracles, ça se peut aussi. Mais tout de même, on est dans une situation justement où là, on a décidé de mettre carte sur table avec nos piliers et aller de l'avant vers quelque chose de plus stable.
Exact. Puis pour ce qui est de Thatcher Demko, justement, c'est le premier de mes 2 joueurs à surveiller pour cette prochaine saison, puisque ça passe ou ça casse, en fait, avec Thatcher Demko. Est-ce qu'il saura disputer une saison complète? A manqué beaucoup de matchs la saison passée à cause de cette blessure au genou, qui est une blessure qui, on le sait, comme, mettons, Carey Price, qui lui est arrivé.
Récurrente, là.
C'est récurrent et ça peut être difficile dans une carrière de gardien de but. Et Thatcher Demko, qui est rendu à 29 ans, d'ailleurs, s'il peut disputer la saison au complet avec les Canucks, c'est vraiment lui qui pourrait faire une différence dans cette saison, de si on va régresser ou si on va rester plus stable, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on le sait, lorsqu'il est en santé, lorsqu'il est en forme, comme tu le dis, il peut voler des matchs à lui
Absolument.
Seul. C'est un gardien qui est excellent, qui est très athlétique. Mais vraiment, c'est ça. Ça va jouer à ce niveau-là. Et l'autre joueur, ben, on en a parlé un peu, là, mais Elias Pettersson, est-ce qu'il va être capable de revenir à ses standards? Écoute, ça a seulement été 45 points la saison dernière. Je comprends qu'il a raté des matchs, n'en a joué que 64. Mais l'année d'avant, c'est 89 points. L'autre d'avant, c'est 102. Ça a été sa meilleure saison en carrière. Et pour un joueur qu'on paie 11,6 millions de dollars, c'est clairement insuffisant là, présentement comme production offensive. Un joueur qui se cherche beaucoup. Lui qui avait gagné également le trophée Calder à sa saison recrue. Donc, l'attaque va passer par lui, c'est sûr et certain. Donc, si Elias Pettersson retrouve ses repères et est capable de retrouver les certains standards auxquels il nous a habitués, eh bien, ça pourrait être pas trop mal. Mais clairement que si c'est encore difficile pour lui et que ça ressemble plus à ce qu'on a vu la saison dernière, eh bien, disons qu'il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté de Vancouver
non,
en attaque et que la saison va être assez longue.
Alors, pour la section Pacifique, il va nous rester 4 équipes à surveiller au cours des 2 prochains jours. Il va rester Calgary, Edmonton, Los Angeles et Vegas, si j'ai bien fait le compte. Ensuite, c'est je exact. Pourrais dire si Anaheim va être au quatrième rang ou pas de la section.
Excellent.
Merci beaucoup, Alexis, pour cette tournée-là. Super
Merci
intéressant de pouvoir faire le tour un peu de toutes les équipes de la Ligue nationale et se mettre un peu à jour parce qu'il y en a tellement des nouvelles lorsqu'on arrive le 1er juillet, le repêchage, les échanges qu'il y a eu. Les gens n'ont pas nécessairement toujours la chance de suivre chacune des formations
de
la Ligue.
Surtout des équipes, justement, qui sont un petit peu plus éloignées comme ça du côté de la Pacifique.
Ouais, tout à fait. Je me tiens au courant de mon Kraken de Seattle, là, je les suis sur Twitter.